Les maudits sont sans importance. Sans importance. Sont sans importance. Les mots sont sans importance.
Bonjour, la diseuse de mots. Aujourd'hui, je vous lis un premier extrait du livre de Lucien Malson, Les enfants sauvages. On appelle enfants sauvages de jeunes êtres que le sort a condamnés à vivre seuls et qui ont été longuement privés d'éducation. Deux textes illustres et introuvables depuis la fin du XIXe siècle font suite à l'analyse de Lucien Malson, les études de Jean Itard sur le sauvage de l'Aveyron. Jeté sur ce globe sans force physique et sans idée innée, hors d'état d'obéir par lui-même aux lois constitutionnelles de son organisation, qu'il appelle au premier rang du système des êtres, l'homme ne peut trouver qu'au sein de la société la place éminente qui lui fut marquée dans la nature et serait, sans la civilisation, un des plus faibles et des moins intelligents des animaux, vérité sans doute bien rebattue, mais qu'on n'a point encore rigoureusement démontré. Les philosophes qui l'ont émise les premiers, ceux qui l'ont ensuite soutenue et propagée, en ont donné pour preuve l'état physique et moral de quelques peuplades errantes qu'ils ont regardées comme non civilisées, parce qu'elles ne l'étaient point à notre manière, et chez lesquelles ils ont dû puiser les traits de l'homme dans le pur état de nature. Non. Quoi qu'on en dise, ce n'est point là encore qu'il faut le chercher et l'étudier. Dans la horde sauvage la plus vagabonde, comme dans la nation d'Europe la plus civilisée, l'homme n'est que ce qu'on le fait être, nécessairement élevé par ses semblables, il en a contracté les habitudes et les besoins. Ses idées ne sont plus à lui. Il a joui de la plus grande prérogative de son espèce, la susceptibilité de développer son entendement par la force de l'imitation et l'influence de la société. On devrait donc chercher ailleurs le type de l'homme véritablement sauvage, de celui qui ne doit rien à ses pareils, et le déduire des histoires particulières du petit nombre d'individus qui, dans le cours du XVIIe siècle, ont été trouvés à différents intervalles, vivant isolément dans les bois où ils avaient été abandonnés dès l'âge le plus tendre. Mais telle était, dans ces temps reculés, la marche défectueuse de l'étude de la science, livrée à la manie des explications, à l'incertitude des hypothèses et au travail exclusif du cabinet, que l'observation n'était comptée pour rien et que ces faits précieux furent perdus pour l'histoire naturelle de l'homme. Tout ce qu'en ont laissé les auteurs contemporains se réduit à quelques détails insignifiants dont le résultat le plus frappant et le plus général, que ces individus ne furent susceptibles d'aucun perfectionnement bien marqué. Sans doute parce qu'on voulut appliquer à leur éducation, et sans égard pour la différence de leurs origines, le système ordinaire de l'enseignement social. Si cette application eut un succès complet chez la fille sauvage trouvée en France vers le commencement du siècle dernier, c'est qu'ayant vécu dans les bois avec une compagne, elle devait déjà, à cette simple association, un certain développement de ses facultés intellectuelles, une véritable éducation, telle que l'admet Condillac, quand il suppose deux enfants abandonnés dans une solitude profonde et chez lesquels la seule influence de leur cohabitation dut donner essor à la mémoire, à leur imagination et leur faire créer même un petit nombre de signes, supposition ingénieuse que justifie pleinement l'histoire de cette même fille, chez laquelle la mémoire se trouvait développée au point de lui retracer quelques circonstances de son séjour dans les bois et très en détail, surtout, la mort violente de sa compagne. « Dépourvus de ces avantages, les autres enfants trouvés dans un état d'isolement individuel n'apportèrent dans la société que des facultés profondément engourdies contre lesquelles durent échouer, en supposant qu'ils fussent tentés et dirigés vers leur éducation, tous les efforts réunis d'une métaphysique à peine naissante, encore entravée du préjugé des idées innées et d'une médecine dont les vues nécessairement bornées par une doctrine toute mécanique ne pouvaient s'élever aux considérations philosophiques des maladies de l'entendement. Éclairé du flambeau de l'analyse et se prêtant l'une à l'autre un mutuel appui, ces deux sciences ont de nos jours dépouillé les vieilles erreurs et fait des progrès immenses. Aussi avait-on lieu d'espérer que si jamais il se présentait un individu pareil à ceux dont nous venons de parler, elle déploierait pour son développement physique et moral toutes les ressources de leurs connaissances actuelles. Ou que du moins, si cette application devenait impossible ou infructueuse, il se trouverait dans ce siècle d'observation quelqu'un qui, recueillant avec soin l'histoire d'un être aussi étonnant, déterminerait ce qu'il est et déduirait de ce qui lui manque la somme jusqu'à présent incalculée des connaissances et des idées que l'homme doit à son éducation. Oserais-je avouer que je me suis proposé l'une et l'autre de ces deux grandes entreprises et qu'on ne me demande point si j'ai rempli mon but? Ce serait là une question bien prématurée à laquelle je ne pourrais répondre qu'à une époque encore très éloignée. Néanmoins, je l'eusse attendu en silence, sans vouloir occuper le public de mes travaux, si ce n'avait été pour moi un besoin, autant qu'une obligation, de prouver par mes premiers succès que l'enfant sur lequel je les ai obtenus n'est point, comme on le croit généralement, un imbécile désespéré, mais un être intéressant qui mérite, sous tous les rapports, l'attention des observateurs et les soins particuliers qu'en fait prendre une administration éclairée et philanthropique. Un enfant de 11 ou 12 ans, que l'on avait entrevu quelques années auparavant dans les bois de la Cône, entièrement nu, cherchant des glands et des racines dont il faisait sa nourriture, fut dans les mêmes lieux et vers la fin de l'an 7, rencontré par trois chasseurs qui s'en saisirent au moment où il grimpait sur un arbre pour se soustraire à leur poursuite. Conduit dans un hameau du voisinage et confié à la garde d'une veuve, il s'évada au bout d'une semaine et gagna les montagnes où il erra pendant les froids les plus rigoureux de l'hiver, revêtu, plutôt que couvert, d'une chemise en lambeaux, se retirant pendant la nuit dans les lieux solitaires, se rapprochant le jour des villages voisins, menant ainsi une vie vagabonde, jusqu'au jour où il entra de son propre mouvement dans une maison habitée du canton de Saint-Cernin. Il y fut repris, surveillé et soigné pendant 2 ou 3 jours, transféré de là à l'hospice de Sainte-Afrique, puis à Rodez, où il fut gardé plusieurs mois. Pendant le séjour qu'il a fait dans ces différents endroits, on l'a vu toujours également farouche, impatient et mobile, chercher continuellement à s'échapper et fournir matière aux observations les plus intéressantes recueillies par des témoins dignes de foi et que je n'oublierai pas de rapporter dans les articles de cet essai où elles pourront ressortir avec plus d'avantage. Un ministre protecteur des sciences crut que celle de l'homme moral pourrait tirer quelques lumières de cet événement. Des ordres furent donnés pour que cet enfant fût amené à Paris. Il y arriva vers la fin de l'an 8, sous la conduite d'un pauvre et respectable vieillard, qui, obligé de s'en séparer peu de temps après, promit de revenir le prendre et de lui servir de père si jamais la société venait à l'abandonner. Les espérances les plus brillantes et les moins raisonnées avaient devancé à Paris le sauvage de l'Aveyron. Beaucoup de curieux se faisaient une joie de voir quel serait son étonnement à la vue de toutes les belles choses de la capitale. D'un autre côté, beaucoup de personnes, recommandables d'ailleurs par leur lumière, oubliant que nos organes sont d'autant moins flexibles et l'imitation d'autant plus difficile que l'homme est éloigné de la société et de l'époque de son premier âge, crurent que l'éducation de cet individu ne serait l'affaire que de quelques mois et qu'on l'entendrait bientôt donner sur sa vie passée les renseignements les plus piquants. Au lieu de tout cela, que vit-on ? Un enfant d'une malpropreté dégoûtante, affecté de mouvements spasmodiques et souvent convulsifs, se balançant sans relâche comme certains animaux de la ménagerie, mordant et égratignant ceux qui le servaient. Enfin, indifférent à tout et ne donnant de l'attention à rien. On conçoit facilement qu'un être de cette nature ne dût exciter qu'une curiosité momentanée. On a couru en foule, on le vit sans l'observer, on le jugea sans le connaître et l'on n'en parla plus. Au milieu de cette indifférence générale, les administrateurs de l'Institution nationale des sourds et muets et son célèbre directeur n'oublièrent point que la société, en attirant à elle ce jeune infortuné, avait contracté envers lui des obligations indispensables qu'il leur appartenait de remplir. Partageant alors les espérances que je fondais sur un traitement médical, ils décidèrent que cet enfant serait confié à mes soins. Mais avant de présenter les détails et les résultats de cette mesure, il faut exposer le point dont nous sommes partis, rappeler et décrire cette première époque pour mieux apprécier celle à laquelle nous sommes parvenus et, opposant ainsi le passé au présent, déterminer ce qu'on doit attendre de l'avenir. Nous irons au bois, 4, 5, 6, cueillir des cerises, 7, 8, 9, dans mon panier, 9, 10, 11, 12, elles seront toutes rouges. Vous pouvez me retrouver tous les mardis à 9h45 sur Jet FM ou en podcast. Laissez-moi vos impressions, vos commentaires, peut-être vos suggestions aussi, pourquoi pas. À propos de ma chronique, en m'écrivant à ladiseusedemots@gmail.com. ladiseusedemots tout attaché @gmail.com. À bientôt!